OK, donc cette étude que j'ai faite avec les jeunes s'est tirée de cette série-là. Et puis, en fait, cette étude s'adresse aux jeunes de 11 à 14 ans. Mais comme j'expliquais mardi passé, même si c'est une étude qui s'adresse à des jeunes, le message de l'Évangile est là. Il s'agit justement, en fait, ce que c'est un guide. Et puis, à partir de là, on développe un thème et puis on peut l'approfondir au niveau de des personnes à qui on enseigne. Donc, cet enseignement-là, on peut l'adapter autant à des jeunes que les adapter à des adultes. Et puis, il s'agit juste de scruter la parole de Dieu et puis de vraiment l'approfondir d'essayer d'enseigner notre auditoire et surtout de rester à leur niveau. Dans son évangile, Jean rapporte cette affirmation de Jésus sur lui-même. Et puis, là, je vais lire directement ce qui est ici. C'est que l'évangile de Jean est un traité théologique d'une importance capitale. Son vocabulaire et sa syntaxe, très simple, mais parfois sont parfois trompeurs, car ils véhiculent une signification profonde et certains passages sont même provocateurs. Donc, le but de l'évangile de Jean, c'était l'évangélisation, et cela se résume dans le Jean 20, verset 31, qui résume le but de l'évangile, c'est que pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Donc, les sept affirmations que Jésus a faites sont en fait une présentation de la personne et du ministère de Jésus. On peut dire qu'elles sont égocentriques dans la mesure où elles se rapportent à la personne même de Jésus. Donc, Jésus, lui, ne donne pas le pain, il est le pain, comme il est la lumière, comme il est la porte, le bon berger, le cep, le chemin, la vérité, la vie. Donc, c'est ce que Jésus est. On parle de la personne de Jésus et son caractère. Donc, le but de cette série-là, justement, était d'étudier ces affirmations-là de Jésus et afin de mieux comprendre les conséquences qu'elles devraient avoir dans nos vies. Donc, Jésus, lorsqu'il a prononcé ces sept affirmations-là, puis je peux les dire vite fait, c'est « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, et je suis le cep. » Donc, il y a une raison pourquoi Jésus a utilisé ce vocabulaire-là. Et lorsque j'enseigne un passage de la Bible, j'aime toujours me mettre en concept. Et puis, le passage aujourd'hui qui est question se retrouve dans Jean 8, les versets 48 à 59. Mais par contre, lorsqu'on arrive dans un passage comme ça, moi j'aime bien savoir qu'est-ce qui s'est passé juste avant, afin de se mettre dans le contexte et puis de savoir pourquoi que Jésus est arrivé avec une déclaration de la sorte et qu'est-ce qui venait de se passer avant. Et puis c'est pour ça que j'ai décidé, quand j'ai fait cette leçon-là, de passer au travers de tout le chapitre 8 de l'Évangile de Jean. Et donc, ça va être le texte, on va regarder l'Évangile. Et puis, lorsque le passage est, vous allez voir dans vos Bibles, si vous regardez, c'est que bien souvent, il va y avoir une partie du chapitre qui va être divisée et puis ils vont donner des titres. Et puis, comme Jean 8, ça commence avec la femme adultère. Après ça, un petit peu plus loin, c'est Jésus, la lumière du monde. Après ça, il va être question de Jésus et Abraham. Donc, ça, c'est les titres que j'ai dans ma Bible non barbouillée. je les ai highlightés ici. Le caractère est un petit peu plus gros, ça va être plus facile pour moi. Lorsqu'on arrive Jean 8, il est question de la femme adultère. Et puis, en fait, lorsqu'on regarde, et puis on a parlé mardi soir passé, lorsqu'on regarde les 11 premiers versets du chapitre de 8, ça ne se trouvait pas dans les textes les textes les plus anciens de la Bible. On l'a retrouvé en quelque part, mais il a été inséré à cet endroit-là. C'est un texte qui est authentique, qui est, comment on dit, qui fait partie du canon de la Bible, qui a été inspiré, et puis je n'ai aucun doute là-dessus. Par contre, dans les plus anciens textes, ce passage-là, de 1 à 11, n'était pas présent. Donc, en fait, ce que le chapitre 8 est, c'est une continuité de qu'est-ce qui s'est passé dans Jean 7. Et puis, lorsqu'on regarde dans Jean chapitre 7, on regarde que Jésus il était en train d'enseigner. OK, Jean 7, la lumière n'est pas tellement bonne. Jésus était c'était la fête des tabernacles. Et puis, à ce moment-là, il y avait beaucoup de Juifs. Puis, il y avait toutes sortes de discussions qui se passaient. Et puis, il y en avait qui... ça ne faisait pas leur affaire, OK, de voir un inconnu arriver là puis parler avec autant d'autorité. Et puis, ça fâchait, OK, les Juifs, les pharisiens qui, eux, défendaient toujours les lois de Moïse et puis ces choses-là. Et puis, lorsqu'on regarde au verset 45 de Jean 7, il est dit « Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? » On parlait de Jésus. Et puis les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Puis les pharisiens, eux, ont répliqué puis ont dit, « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduit? » OK, donc, est-ce que ça se peut que parmi les pharisiens, vous ayez été séduits par les paroles de cet homme-là? Et, y a-t-il un chef ou des pharisiens qui ont cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Donc, lorsqu'on parle de cette foule-là, ils ne font pas partie de l'élite juive, OK? Donc, ils ne devraient pas comprendre ce que ça dit là, puis on ne devrait pas. Mais Nicodème, qui était venu de nuit dans le chapitre 3 de Jean, vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Donc, j'imagine que le cœur de Nicodème avait commencé à être transformé à ce moment-là. Et puis, lui, il est arrivé ça, « Hey, est-ce qu'on est pour condamner cet homme-là sans qu'on l'ait écouté, qu'il ait pu se défendre? » Là, eux autres, ils ont répliqué à Nicodème, « Coudon, es-tu aussi galiléen? » Et puis, il y a une parole qui est dit aussi, c'est que « Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Donc, Jésus venait de la Galilée, il venait au nord, puis, comme vous savez, le nord de la Palestine, là, mais la région-là, là, c'était la région qui c'était pas comme la région de la Judée, le sud, où se trouvait Jérusalem, puis Bethléem, toutes ces choses-là. Puis ils disent que jamais rien était venu de bon du nord de cette région-là, de la Galilée. Puis Jésus s'en vient, comme vous savez, il venait de Nazareth, et puis lui, il est arrivé avec toutes sortes d'enseignements. Puis là, les Juifs disaient, il n'y a jamais rien de bon qui est sorti de là, puis allez-vous commencer à écouter un homme qui vient de là? Donc, là, on voit aussi, et chacun s'en retourna dans sa maison. Là, comme je vous dis, on ne regardera pas les 11 premiers versets, mais je crois que la raison pourquoi que ça, je trouve que ça fit bien quand même dans le décor, parce qu'on voit que là, lorsqu'ils ont amené la femme adultère, on a vu que les Juifs qui... Tout de suite, là, ils ont voulu appliquer la loi, là, puis ils ont voulu lapider cette femme-là qui avait été prise en flagrant délit. Et puis Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que il les a même pas regardé. Il a dit que celui qui est là qui n'a pas de péché, lance la première pierre. Et puis Jésus s'est retourné vers la femme adultère, puis lui a dit, lui, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Ça, c'est Jésus, OK? Jésus, c'est comme ça qu'il était. Donc, lorsqu'on reprend, au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, là, Jésus venait de faire une affirmation. Et puis, lorsqu'il va parler de la lumière du monde, c'est quelque chose que je vais apporter dans les études. Mais en fait, l'enseignement principal de Jésus, la lumière du monde, il l'a fait au travers de ce qui se passe dans le chapitre 9, qui est la guérison de l'aveugle né. Donc, c'est une affirmation importante. Mais ce que Jésus est en train de faire dans cette affirmation-là, c'est qu'il est en train de rendre témoignage de lui-même. Et puis, Jésus dit, « Mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. » Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce passage-là, dans ce que je viens de lire, que c'est au verset 14, Jésus utilise l'application « d'où je suis venu ». Donc, un premier « je suis », ok, qui est arrivé là. Et il dit « je rends témoignage » et aussi il dit « et si je juge, mon jugement est vrai », au verset 16, « car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi ». Et puis, il dit, « Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a rendu témoignage de moi. » Et comme vous voyez ici, c'est des choses qui sont assez provocateurs, comme j'ai mentionné tantôt dans l'introduction. Jésus leur dit encore, au verset 21, « Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. » Remarquez ici que Jésus mentionne « Vous mourrez dans votre péché. » Et le plus grand péché qui peut exister, c'est de refuser Jésus-Christ. Et s'ils ne sont pas en train d'accepter Jésus-Christ pour qui il est, le Sauveur, le Messie, ils vont mourir dans leur péché. Parce que c'est le seul péché, on peut l'appeler dans d'autres places, le blasphème du Saint-Esprit, mais le seul péché qu'on peut pas pardonner, qui ne nous laissera pas rentrer aux cieux, c'est si on n'accepte pas Jésus-Christ comme notre Sauveur. Donc, là, il est en train de lui dire, « Vous acceptez pas ce que je suis en train de vous dire. Vous acceptez pas qui je suis, le Sauveur du monde, le Messie. Donc, vous mourrez. Si vous acceptez pas qui je suis, vous mourrez dans votre péché. » Et un petit peu plus loin, sur quoi les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, « vous ne pouvez pas venir où je vais. » Donc, ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire. De leur dire. Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis, encore un « je suis », d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Donc là, lorsqu'il met péché à leur, au pluriel, là, il est question des œuvres qui sont ordonnées par la loi. Okay? Les Juifs ne sont même pas capables d'exécuter toutes les œuvres, tous les commandements. Donc, ils sont conscients que la loi est là pour leur montrer qu'ils sont pécheurs. Donc, vous mourrez dans vos péchés, c'est pourquoi c'est dit de Jésus. Donc, je vais sauter une couple de versets. Et puis, on va aller au verset 28, qui Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. » OK? Puis là, on a eu une discussion mardi soir, et puis ça m'a apporté, oui, Jésus va être élevé lorsqu'il va être rentré dans Jérusalem, il va être élevé lorsqu'il va au moment de la... Comment tu appelles ça, lorsqu'il est apparu avec Élie et Moïse, la transfiguration. Mais ici, il est question de Jésus lorsqu'il va être élevé sur la croix. Et puis là, à ce moment-là, vous allez reconnaître. Certains vont reconnaître. Ce n'est pas tout le monde qui va le reconnaître comme le Messie, OK, lorsqu'il est mort. Et puis, on sait que beaucoup, lorsqu'ils ont vu Jésus élevé sur la croix, il y en a qui ont cru. Il y en a qui ont eu la tête plus dure que même au moment de la résurrection, ils n'ont pas cru. Puis même encore aujourd'hui, on en parle. Puis même si tout est là, on parle à des gens, c'est quoi le christianisme, c'est quoi d'être un chrétien. Et puis même encore, ils ne veulent pas croire. Mais par contre, la vraie vie, lorsque Jésus a vraiment été élevé, c'est lorsqu'il a été élevé sur la croix pour accomplir le salut, pour accomplir ce que Dieu lui avait confié de faire pour le salut du monde. Donc, ce que je suis et ce que je fais, rien de moi-même, mais que je parle selon ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi et, ne m'a pas laissé seul parce que je sais toujours ce qui lui est agréable. Donc, là, de plus en plus, Jésus est en train de développer, puis il est en train de se faire égal au Père. Okay? Il est en train de lui montrer qu'il est Dieu. Donc, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Lorsqu'on parle d'être affranchi, c'est d'être déclaré libre, okay, dans ce contexte-là. Et lorsqu'on dit « Jésus », plus tard, va dire qu'il est la vérité. Donc, qui va affranchir, qui va nous délivrer du péché, qui va nous rendre libres, c'est Jésus. Et Jésus, même s'il ne le fait pas là, il dit « La vérité vous affranchira », il va le déclarer plus tard qu'il est la vérité, que Jésus est celui qui va les délivrer de leur péché. Donc, il va commencer la question d'Abraham ici. Et puis, Jésus venait de dire toutes sortes de déclarations, se faire égal à son père. Jésus, les Juifs lui ont répondu, « Nous sommes de la postérité d'Abraham et ne nous fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » en vérité, je leur dis, Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Donc, Jésus allait dire qu'il allait les délivrer du péché. Okay? Parce que si quelqu'un se livre au péché, il est un esclave. Et je ne suis pas le premier à vous annoncer ça du haut de la chair. Donc, nous sommes tous, à un certain degré, esclaves du péché. Et Jésus, son œuvre sur la croix, allait justement régler ce problème-là. Si on voit un petit peu plus tard, un petit peu plus loin, au verset 38, « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Et il avait raison, parce qu'il était de la descendance d'Abraham. Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Donc, on sait que Jésus il est renommé pour sa foi, que Abraham est reconnu pour sa foi. Et Abraham, lorsque lui, ce qu'il a fait, c'est que les œuvres d'Abraham, ça a été la foi, mais aussi l'obéissance. Et lorsqu'on se souvient aussi que lorsque la foi d'Abraham a été mise à l'épreuve, lorsque Dieu lui avait dit de tuer son fils, okay, de sacrifier son fils, il a obéi et puis il a démontré sa foi par ce geste-là. Et par contre, Abraham croyait vraiment dans la promesse que Jésus avait faite que le Sauveur naîtrait un jour de la descendance d'Isaac, son fils. Donc, il a fait, et puis lorsqu'on regarde... lorsqu'on regarde ce qu'il a fait, c'est qu'il a démontré sa foi par ça. Au verset 42, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu, encore là, que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est de celui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Donc, c'est là, à ce moment-là, que qui est-ce que les Juifs écoutaient? C'est qu'ils écoutaient le diable. Okay? Là, il y a le fameux verset 44 qui est ici, puis à chaque fois je le vois, je l'ai dit le mardi soir, je vais toujours me souvenir lorsque Stéphanie, je ne sais pas si elle est encore capable de réciter par cœur, c'est un des versets les plus longs, et puis Stéphanie était capable de réciter. C'est qu'il dit... qui finit de cette façon-là. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, les Juifs croyaient plutôt dans un mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Et Jésus continue à dire, « Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc, il est en train de dire aux Juifs ici qu'ils ne sont pas de Dieu, OK? Qu'ils préfèrent croire au mensonge de suivre Satan que de croire la vérité de ce que Jésus vient d'enseigner, lui qui vient de se déclarer Dieu. Donc, voici le passage ici que je t'ai supposé de vous dire. Il commence au verset 48. Donc, les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? » Jésus répliqua, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche pas point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. » Donc, il est en train de parler de son Père. Donc, à cause qu'il fait de telles affirmations, il accuse Jésus d'avoir un démon. Et Jésus dit au verset 51, « en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Maintenant, lui dirent les Juifs, « Nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, et les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes sont morts aussi. Qui prétends-tu être? » Donc, Jésus est en train de dire ici que s'ils croient en lui, ils ne verront jamais la mort. OK? Donc, ce qu'il est en train de faire, là, aux yeux des Juifs, il est en train de blasphémer parce que Abraham, pour eux, était le plus grand. Et puis, il avait connu la mort et les prophètes aussi. Et Jésus, lui, dit, « Si vous croyez en moi, vous ne connaîtrez jamais la mort. » Donc, pour eux, là, c'était un démon qui parlait à travers de Jésus. Et verset 54, Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mais mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. » Donc, eux autres, ils disent, « On a le Dieu d'Abraham. » OK? Donc, il est en train de dire qu'ils ont le même Dieu que Jésus prétend être. Et que vous ne connaissez et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Donc, Jésus dit la vérité, okay? Qu'il connaît son Père parce qu'il est venu de lui. Mais je le connais et je garde sa parole. Donc, là, ce qu'il est en train de dire, là, au verset 56, Abraham, votre Père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. Lorsque Abraham était sur le mont en train de sacrifier son fils, je suis persuadé qu'à ce moment-là, puis les commentaires le disent, c'est que Abraham, Dieu a donné une vision à Abraham de ce qui allait se passer au même endroit plusieurs centaines d'années plus tard. Donc, Dieu a donné une vision à Abraham qu'un jour, à cet endroit-là, sur le mont Moriba, puis vous pouvez faire des recherches, le mont Moriba, ça se trouve à Jérusalem, et plusieurs commentateurs vont dire que l'endroit où Abraham était en train de sacrifier son fils, c'est le même endroit où Dieu allait sacrifier son propre fils, Jésus. C'est le même endroit. Donc, vous pouvez faire des recherches. Moi, je crois que oui. Et puis, on dit ici qu'Abraham a tressailli de joie qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Donc, comment ça se fait que toi, tu as vu Abraham? Tu sais, Jésus vient dire qu'il a vu Abraham là, au moment où il allait sacrifier Isaac. Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, avant que Abraham fût, je suis. » OK? Là, vous voyez, là, qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici avec le « je suis ». Qu'est-ce qui impliquait? C'est que Jésus était éternel. OK? Il est en train de dire « je suis ». OK? Donc, et on va voir pourquoi que les Juifs, lorsqu'ils entendaient le mot « je suis », ça sonnait quelque chose. Parce que Dieu s'était appelé lui-même « je suis » dans l'Ancien Testament. Et là, Alexis m'a laissé, Alexis qui était présent à l'étude l'autre soir, lorsqu'il a pas posé une question. Et puis, il m'a posé dans l'auto, puis je n'ai pas été capable d'y répondre. Il dit, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Dieu se cacha et il sortit du temple. Il était dans le temple, comment ils ont fait sortir des pierres? Donc, je n'ai pas été capable d'y répondre. Puis, je ne sais pas quoi répondre là-dessus. Mais on sait que ce qu'on peut en ressortir de ça, c'est qu'ils n'ont pas été contents. Puis là, ils voulaient faire mourir Jésus. Et puis, lorsqu'on regarde aussi, Jésus se cacha et il sortit du temple. Il y a certains commentateurs qui vont dire que Jésus a sorti du temple. Il est venu à bout de s'esquiver par une manière un peu... il s'est servi de sa divinité, OK, pour le faire. Il y a quelque chose que Jésus a pu faire. Mais lorsqu'il dit qu'il est sorti, il semblerait qu'il ait tout simplement marché puis est sorti. Donc, encore là, c'est un débat. Et puis, je n'ai pas les réponses. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que Jésus a senti la menace. Il allait être... les Juifs voulaient le mettre à mort. Et puis, il a fui le temple. Donc, si vous voulez, on va tourner dans nos Bibles. OK? Puis, on va regarder le chapitre 3 de Exode. Et puis, on va voir ce qui a apporté Jésus. La raison pourquoi le nom « Je suis » est si important. Et lorsqu'on regarde Moïse, le peuple d'Égypte, le peuple des Juifs, les Hébreux, était à ce moment-là, ça faisait 400 ans qu'ils étaient esclaves en Égypte, et puis plus ça allait, plus le peuple hébreu se multipliait, et ils étaient sous l'emprise du pharaon. Et puis, comme on sait, lorsque Dieu avait fait la promesse à Abraham, il disait qu'un jour il allait être un peuple nombreux et qu'il allait être apporté, que quelqu'un allait les mener dans un pays où coulerait le lait et le miel. Donc, certainement, ce n'était pas en Égypte parce que là, ils subissaient l'oppression des Égyptiens. Et ils réclamaient, il était temps que Dieu intervienne parce qu'ils commençaient à désespérer. Donc, celui qui a été sollicité par Dieu a été Moïse. Et puis même Moïse, lui, ça faisait 40 ans qu'il était dans le désert, et puis il était réduit à paître des animaux, un troupeau dans le désert. Et puis un jour qu'il était là, il a entendu une voix qui l'a appelé, et puis lorsqu'il s'est retourné, il a vu un buisson qui était en feu, mais que le buisson, au verset 2, nous dit « le buisson ne se consumait pas ». Moïse dit « je veux me détourner » pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait pas. Et là, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse! » Et il répondit, « Me voici! » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Donc, Dieu a commencé à parler, et puis c'est là que Dieu a dit à Moïse, « C'est toi que j'ai choisi, c'est toi qui vas faire sortir mon peuple qui est en esclavage en Égypte, et c'est toi que j'ai choisi. » Puis là, il va donner toutes sortes d'excuses, OK, pour ne pas le faire, puis il va commencer à bégayer, il va dire, « Ben voyons donc, puis je vois là. » Puis là, ben quand j'arrive, là, ils vont vouloir demander, « C'est qui m'a envoyé? » Je ne peux pas juste arriver puis dire, « Dieu me dit telle chose. » Il dit, « Eux autres, ça va leur prendre un nom. » Et c'est là qu'on va continuer au verset 13, qui dit, « Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandaient quel est son nom, que leur dirais-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et elle ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui m'appelle, celui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà, mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Donc, lorsque Moïse a demandé quel nom est-ce que je vais donner au peuple, de dire c'est quel Dieu qui m'a envoyé, vous leur répondrez « Je suis ». Donc, c'est le nom de Dieu. Et les Juifs connaissaient ce passage-là. Et à maintes, plusieurs autres endroits dans l'Ancien Testament, Dieu parle à son peuple et il s'identifie comme le « Je suis ». Donc, c'est pour soi que lorsque Jésus a fait l'affirmation que « avant qu'Abraham fût, je suis ». Donc, il venait de se proclamer Dieu, il venait d'utiliser, c'était insultant, c'était provoquant pour les Juifs. Donc, on va terminer cette étude-là. On va retourner dans le Nouveau Testament. Et puis, est-ce que les affirmations de le mot « je suis » dans le Nouveau Testament a été presque exclusivement utilisé par Jésus? Et puis, le mot qui est utilisé ici, c'est « ego eimi », okay, qui est le mot grec pour « je suis ». Donc, on pourrait faire une étude. J'ai ici un petit livre ici que ce qu'ils font, c'est que le texte grec est là. Puis chaque mot qui est là, il y a un équivalent en anglais ou en français qui est en dessous du mot. Et puis, à force de... ils vont tout démêler ça, puis ils vont faire des phrases avec ça. Puis c'est comme ça que nos Bibles, nous autres, nous sont apparues. Ça vient des textes originaux grecs pour le Nouveau Testament. Donc, lorsqu'il est utilisé le mot « ego eimi », c'est « moi, je suis ». Mais il y a dans certaines... c'est le « ego eimi » qui est utilisé lorsque Jésus a dit « avant qu'Abraham fût, je suis ». Et lorsque il a dit « je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde », c'est toujours le « ego eimi ». Mais par contre, « ego eimi », il a souvent été traduit par le mot « c'est moi ». Et ceci, on le retrouve à deux endroits. Et un de ces endroits, c'est lorsque lorsque les Juifs étaient dans une barque et puis qu'ils étaient effrayés. Ils pensaient que c'était un fantôme qui s'en venait. Et puis Jésus le dit « c'est moi ». Et donc, soyez sans crainte. Ça se trouve à Jean 6, le verset 20. Donc, à cet endroit-là, le « ego eimi » a été mis comme le « c'est moi ». Et puis, il y a un autre endroit aussi qu'il y a le même sens. Et je vous demanderai de tourner dans vos Bibles, dans Jean 18. Et puis celui-là, je trouve que c'est pas mal fort. OK, on va regarder verset 6. Okay. Jésus a été trahi puis a été arrêté dans le jardin de Gethsémani. Et puis, on va commencer au verset 2. Attendez une minute. OK, on va commencer au verset 4 qui dit « Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança, il leur dit « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit « C'est moi. » OK, puis probablement dans vos Bibles, ils font une petite note en bas. « Et Judas, qui le livrait, était avec eux. » Lorsque Jésus leur eut dit « c'est moi. » Et regardez bien ce qui est dit ici. Ils reculèrent et tombèrent par terre. Donc, comme vous voyez ici, c'était surnaturel. Okay? Et puis, lorsqu'il a dit « c'est moi », en fait, c'est le même mot qui est « je suis » qui s'identifiait, qui se disait Dieu, au point où ils sont tombés par terre. Il y a seulement deux autres endroits dans la Bible, ou deux autres personnes où que le mot « je suis » est utilisé. C'est dans l'Évangile des Jean. C'est l'aveugle né qui va utiliser ça, parce qu'à ce moment-là, ils vont demander qui il est, puis lui, il va utiliser le mot « je suis ». Et puis, il y a aussi Jean-Baptiste. lorsqu'ils vont lui demander qui il est, bien, Jean-Baptiste, lui, ce qu'il fait, Jean-Baptiste doit dire qui il est, parce qu'il est demandé avec insistance. En premier, il va dire ce qu'il n'est pas. Il dit « Non, je ne suis pas le Messie ». Et puis, lorsqu'ils vont lui demander une deuxième fois, il n'y a pas d'autre choix que de dire, il doit utiliser l'expression « je suis », donc pour montrer son identité. Donc, comme vous voyez, le mot « je suis », c'est une parole qui est forte. Et puis, je crois que ça vaut la peine de l'utiliser, de l'étudier, et c'est ce que nous faisons le mardi soir. Et puis, ça, c'était l'introduction et la raison pourquoi qu'on doit faire ça. Donc, le but de notre leçon était de comprendre vraiment les conséquences qu'il pouvait avoir, que ces déclarations-là de « je suis » peuvent avoir dans nos vies. Et je crois que lorsqu'on comprend réellement l'importance de ce mot-là, l'ampleur de ce mot-là, Jésus se disait Dieu, et pour les Juifs, c'était choquant. Donc, les études qu'on va avoir les mardis soirs cette semaine, bien, ça va être Jésus, lorsqu'il a dit « Je suis le pain de vie ». Donc, ceci complète mon introduction.